parle-t-on quand on parle de patrimoine ? La définition est vaste, mais nous nous concentrerons ce soir sur le patrimoine au cinéma, avec un spécialiste de la question, Sylvain Lefort. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Robin.
Alors, tout d'abord, pour prendre le problème, pour le dire comme ça, par le début, puisque, comme je l'ai dit, on va parler de beaucoup de cinéma, est-ce que tu sais comment et quand est née ta passion pour le cinéma en tant que telle ?
Oh là là, comment ? Je ne sais pas. Quand ? Oui, elle remonte à il y a plus de 50 ans. Enfin, donc, ce n'était pas quand même Georges Méliès, mais pas loin. Écoute, bon, elle est née de manière très, 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 très classique. Hein. Elle est née à la fois à un moment où il y avait beaucoup de revues, hein, revues de cinéma. C'était, je me souviens, c'était le temps des encyclopédies alpha du cinéma. Ça en parlera peut-être à quelques-uns de nos auditeurs et donc auditrices. Mais c'était une époque aussi où la cinéphilie, elle se construisait à travers la télévision. Hein, à travers la télévision, il y avait trois chaînes et il y avait notamment un certain nombre de passeurs qui animaient leur ciné-club. On les connaît au moins de nom. Il y en a certains qui sont encore en activité. Celui qui est encore en activité, et c'est Patrick Brion.
Oui, j'allais le dire, c'était le cinéma de minuit, il me semble.
Voilà, le cinéma de minuit qui était sur FR3, devenu France 3, qui était le dimanche soir. À côté de ça, il y avait le vendredi soir, à la suite d'Apostrophe de Bernard Pivot, Claude Jean-Philippe, qui présentait son ciné-club. Là aussi, donc le vendredi soir, vers 22h30, c'était un rendez-vous et un carrefour de cinéphilie assez fort, où on découvrait les Fritz Lang, des Chabrol, des Romer, etc. Alors que Patrick Brion était plus spécialisé, on va dire, sur le cinéma américain des années 30, 40,
de l'âge d'or
50,
d'Hollywood, ouais.
Exactement. Plutôt. Et la troisième personne qui a construit, en tout cas en partie, ma cinéphilie, c'est Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, qui
Monsieur
a travers
cinéma.
Monsieur Cinéma, exactement, Monsieur Cinéma, qui à travers une activité plus ludique, en tout cas son jeu, Monsieur Cinéma, permettait de parfaire sa culture cinéma. Et bien sûr, y en a un qui est arrivé un peu plus tardivement, mais qui aussi a constitué un temps fort, c'est Eddie Mitchell et sa dernière séance.
La dernière séance, ouais.
Voilà, du mardi soir, et qui reprenait le double programme.
Là, c'était surtout des films de genre et des westerns, il me semble. Parce
exactement.
Que lui, Monsieur Eddie, comme on l'appelle, c'était un grand fan de ça. Il mettait en lumière toutes ces cinéphilies-là.
Exactement, le Corsaire Rouge, les aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn. Enfin, c'est vraiment ce type de film. Et qu'il diffusait en VO pour la plupart des films, à une heure de grande écoute, ce qui était assez audacieux
pour l'époque.
À l'époque. La dernière chose, c'est qu'effectivement, c'est une époque où, donc pour voir des films, il n'y avait qu'un seul lieu où voir, au-delà de la télévision, où voir les films, c'était aller au cinéma. Et là, aller au cinéma, c'était à la fois... c'était à la fois un luxe et à un moment quelque chose aussi de très très d'extrêmement formateur. Je rajouterai une dernière chose et qui est, je crois, absolument indispensable pour tout cinéphile encore aujourd'hui. On y reviendra très certainement à la suite de notre entretien, mais c'est la lecture. Et la lecture, bien sûr, donc. De revues, on en parlait, je parlais de l'encyclopédie Alpha, du cinéma, mais il y avait aussi à l'époque les premières et studios qui naissaient.
Qui ont émergé à cette époque-là.
Exactement.
Puisque, première, il me semble, c'est 76.
Exactement.
Donc toi, tu es pile de cette génération-là.
Exactement, pile. Et donc, j'ai encore le premier numéro de première.
Qui était en couverture ?
Sylvia Christel, non pas dans Emmanuel
j'allais
mais, dans René Lacanne de Francis Giraud avec Michel Piccoli et Gérard Depardieu. Et donc 76, et puis ensuite studio, et puis ensuite les revues qui étaient installées, alors que moi personnellement j'ai découvert un peu plus tard, de par leur côté universitaire, sérieux, polémique et tout, et que je ne pouvais pas accéder à 8-9 ans, mais qui étaient les cahiers positifs. D'autres revues qui existaient à l'époque, hein, je pense à la Revue du cinéma,
oui.
Qui était aussi un mensuel plus ou moins financé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il y avait vraiment une vertu aussi
didactique
mais aussi qui s'amusait beaucoup. Il y avait des grands stylistes et des grandes plumes. Je pense notamment à Alain Garel qui était vraiment... à la fois il y a un ponte et quelqu'un de très drôle dans sa plume. Il y avait d'autres revues, hein, je pense une revue qui s'appelait Cinématographe, qui avait été créée par notamment Jacques Fieschi, qui est devenu le scénariste que tu connais peut-être, le scénariste entre autres de Nicole Garcia
Bien
et des
sûr, ouais.
derniers Claude Sautet, etc. Donc, et la lecture, très, 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 très importante, et lecture de revues et lecture également d'ouvrages. Hein, c'est.
Des ouvrages d'entretien, des ouvrages critiques sur la mise en scène, sur
Exactement. Enfin, à l'époque, vraiment, ma première bible de cinéma, ça a été le Kubrick de Michel Simon,
qui est resté une référence sur
qui
Kubrick.
reste une référence, qui a été dont le modèle devait être plus ou moins inconsciemment, si on lisait à Michel Simon, je pense qu'il serait furieux, mais c'était quand même le Hitchcock
Truffaut,
Truffaut,
oui, j'allais
hein,
dire.
c'est-à-dire cette combinaison à
Qui
la
était
fois
de la chapelle d'en
d'entretien,
face, mais il y a
voilà,
quand même. Ouais.
voilà. Mais donc, tout ça a fait que moi, j'ai baigné, je suis tombé dans dans ce bouillon de culture, hein, cinéma, donc avec une pincée de lecture, beaucoup de fréquentation de salles de cinéma, la vidéo qui commençait un petit peu, mais c'était
L'émergence
pas.
du magnétoscope, de la VHS, ça c'était plutôt quoi, au milieu des années 80
Ouais, c'est ça, au
puis
milieu
c'est
des années 80.
ce qu'on oublie aussi, c'est que certes, quand les premiers magnétoscopes étaient disponibles, c'était une chose, mais c'était quelque chose qui était très coûteux, donc c'était pas forcément donné à toutes les à tous les budgets non plus.
Oui, oui, absolument, absolument. C'était pas, enfin, surtout au début. Donc moi, enfin, j'ai eu accès, on va dire, oui, au milieu des années 80, à travers en fait le format, non pas ni de la VHS ni du Betamax, mais du V2000, qui
D'accord.
était le format créé par l'Europe, qui avait le double avantage par rapport aux autres d'être, enfin, ou le seul avantage, c'était d'être des cassettes réversibles.
D'accord.
Ce que n'était pas la VHS. Donc, on pouvait enregistrer 2 fois 4 heures de film. Et donc, ça, c'était aussi une vraie bénédiction. Le désavantage, c'est que comme c'était effectivement un format plus. Enfin, les cassettes étaient chères, les lecteurs étaient chers. Du coup, il y avait peu d'éditeurs qui s'étaient engouffrés dans la brèche du V2000. Et donc, bon, pour trouver des éditions vidéo de films, c'était extrêmement dur. Je rajoute un quatrième média et qui nous concerne tous ce soir, mais il ne faut pas négliger aussi la radio. La radio, le masque et la plume, c'était une institution. Religieusement, moi, je n'allais pas à la messe, mais j'écoutais tous les dimanches soirs le masque et la plume.
C'était à
Hein.
l'époque Jean-Louis Borry, s'appelait comment s'appelait le
Alors,
grand?
non, alors moi, je suis un tout petit peu
Non,
plus
il
jeune,
est d'autant
donc
qu'il est
je n'ai
mort assez
pas
jeune Jean-Louis
connu.
Borry, mais c'était qui à
Voilà,
l'époque?
mais alors, c'était animé à l'époque. À l'époque, je crois que c'était déjà François-Régis Bastide,
D'accord.
puis ensuite Pierre Bouteiller, puis ensuite Jérôme Garcin, qui est vite
Qui est toujours
arrivé, qui est encore.
indéboulonnable.
Mais je me souviens de deux voix qui étaient déjà présentes. L'une qui était l'ancêtre de l'époque, c'était Georges Charansol, hein, qui est un critique qui était très célèbre dans les années 30 et qui était très proche de René Clair et
D'accord.
qui officiait au Masque et la Plume jusqu'à ses derniers jours, ou presque, au début des années 80, si je ne m'abuse. Et l'autre voix qui, à l'époque, était un jeune mais un brillant polémiste et qu'on entend encore aujourd'hui, c'est Michel Simon, bien évidemment, qui aussi, par ses analyses et l'acuité de son regard, déjà, moi, me passionnait particulièrement.
Et oui, donc tu disais tu as beaucoup lu et tu as beaucoup tu parlais des différents médiums que tu as dont tu t'es nourri et finalement donc toi après assez rapidement tu as commencé à écrire autour du cinéma. C'est après avoir emmagasiné beaucoup de connaissances que tu t'es dit comment tu as sauté le pas?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, le premier saut, ça a été dans l'animation d'un ciné-club au collège,
Ok.
au lycée,
De
pardon,
façon assez
plutôt.
amateur, associative.
Absolument associative, mais et de manière irrégulière, avec d'autres. Donc, il y en a certains qui se reconnaîtront, mais il y avait entre autres Mathieu Durand, avec qui, par la suite, il a créé son propre blog et que j'ai rejoint dans le cadre de son équipe éditoriale. Et ce blog, c'est toujours Ciné Bloggywood, donc qui a été créé dans les années 2010. Donc, en fait, Moi, sur le cinéma, il y a eu d'abord le ciné-club, et ensuite, c'est resté une passion qui n'a rien donné de professionnel. Le premier grand saut, ça a été effectivement le blog, donc à la fin des années 2000, au début des années 2010, avec Ciné Bloguywood.
Et alors, tu disais que c'est quelque chose qui n'avait pas. C'est une pratique amateur qui n'avait pas débouché sur quelque chose de professionnel. Justement, pour toi, c'était une volonté de. Pas forcément de cloisonner, mais je pense que quand on est cinéphile, il y a tous, moi le premier, je pense qu'il y a tous un moment où on se pose la question, soit en tant que critique professionnel, soit en tant que même quelqu'un qui travaille dans le cinéma, d'un côté ou de l'autre du rideau. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais, soit qui était venu de tes parents, soit c'est quelque chose que tu t'étais dit, que c'était un milieu où il y avait finalement beaucoup d'appelés pour peu d'élus, où ça te faisait pas plus rêver que ça?
Alors, comment dire? Alors, personne de mon côté famille et tout ne venait, n'était issu du
Du
cinéma,
sérail.
donc du sérail.
Donc
Donc,
le népotisme, c'était pas possible.
vraiment, et deux, personne n'était vraiment cinéphile dans ma famille. Je suis vraiment tombé dedans, dans la
Génération
marmite.
spontanée.
Le seul moment où j'ai approché un peu le cinéma avec son glamour et ses paillettes, on en a parlé tout à l'heure, c'était avec Pierre Tchernia parce que j'ai participé à une émission de Monsieur Cinéma où j'étais candidat. J'ai fait, bon, j'étais l'un des plus jeunes candidats de Monsieur Cinéma en 78.
Et tu avais gagné.
Et j'ai gagné, ce qui m'a permis de gagner 50 places de cinéma, ce qui pour l'époque était énorme
Bien sûr,
parce
puisqu'il n'y avait
que
pas le pass
vraiment,
illimité ni rien,
voilà, il n'y
50 places
avait
de cinéma.
rien. Donc je me souviens au lycée ou au collège, le lendemain, pour celles et ceux qui m'avaient vu, il fallait que je distribuais des places et tout. Donc, j'avais fait assez peu de pubs au départ sur ma prestation, mais comme elle a été vue, eh
Ça
ben,
a fait
donc ils
effet
sont
boule de
comme,
neige.
voilà, exactement. Mais ce qui m'a permis de serrer la main de gens comme Jean Carmet et Bernard Blier, qui étaient les invités de Pierre Tchernia à cette époque. Donc,
C'était pour Buffet froid, il me semble.
exactement, c'était pour Buffet Froid, la sortie bien jouée de Buffet Froid, donc voilà, en 60, quoi, 18, 19,
Il
quelque
me
chose comme
semble que
ça.
c'est ça, 78.
Donc, ça a été le seul moment où j'ai côtoyé un peu les paillettes du cinéma. Après, en fait, il faut dire non, enfin, pour moi, ça a toujours été un loisir, une passion, une culture, si ce n'est que de manière un peu confuse. J'en voyais et des vertus, en tout cas pour venir expliquer ou pour venir éclairer ou pour venir nourrir. Très souvent, dans mon parcours universitaire, hein, j'ai une formation de journaliste, je suis passé par une formation littéraire assez classique, mais à chaque fois qu'il y avait des exemples pour illustrer, j'allais d'abord et avant tout puiser dans ma culture cinéma et ça faisait toujours tilt parce que c'était en fait un vecteur, un moyen qui était assez peu utilisé par les étudiants ou par les lycéens à l'époque. Et bon, donc c'était ça. Mais c'est resté très longtemps effectivement un loisir, avec cette vague idée quand même d'en faire quelque chose pour pouvoir véhiculer des messages. Et c'est vraiment avec l'émergence et du blog et de l'écriture que j'ai dit, ah bah oui, oh, et
Tu
c'était
t'es
tellement
pris au jeu
simple.
finalement.
On se prend au jeu, on rentre dans une gymnastique hein, d'écriture de 3, 4 postes, 5 postes par semaine. Aussi bien, alors là, avec mon acolyte, on avait vraiment carte blanche, puisqu'on n'avait pas de ligne éditoriale, si ce n'est que d'écrire sur ce qu'on aimait. Donc, c'était aussi bien sur des films récents que sur des films anciens, que sur des films qui passaient à la télévision. Je me souviens que mon tout premier poste, ça a été sur la découverte. Un beau soir, en arrivant à la maison, après une soirée un peu arrosée, j'allume mon poste et je tombe sur La route de Salina de Georges Lautner. Une curiosité, mais dans tous les sens du terme, ne serait-ce que dans la filmographie du cinéaste, mais qui
Oui, parce
m'a.
que Georges Lautner, il faut le rappeler, il est plus connu pour les films, certains films qu'il a fait avec Belmondo plutôt période cascadeur, ou même, il me semble, le premier La Cage aux Folles, peut-être même les deux premiers, c'est lui.
C'est le troisième, en
Le
fait, les
troisième,
deux.
autant pour. Non, je confonds, c'était
Premier, c'est
Molinaro les deux
Edouard.
premiers.
Voilà,
Non,
exactement.
je les confonds souvent, merci.
Exactement.
Molinaro et Lautner. Et puis surtout, j'aurais dû commencer
Oui.
par ça, les Tontons
Voilà.
Flingueurs. Voilà. Donc les Tontons Flingueurs et les Barbouze, le diptyque, il a fait oui, un cinéma qu'on pourrait qualifier de... C'est ce qu'on appelait à l'époque le cinéma de papa, ouais. Et puis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec nostalgie ou avec dédain, du cinéma gentiment franchouillard. Quoi, donc,
classique, oui, absolument. Enfin, qui fait partie du patrimoine, mm. Au même titre que La Grande Vadrouille,
oui, voilà.
Ou le Corneau. Mais il y a dans sa filmographie deux, trois films qui sont vraiment des exceptions, des curiosités.
Mmh, des anomalies, quoi.
Voilà, enfin, alors, je ne sais pas si c'est des anomalies ou si ce sont des films dans lesquels, en tout cas, sa personnalité
émerge davantage. Ouais.
Et là, elle émerge à travers, et ce film-là, La Route de Salina, un film avec Rita Hayworth, avec...
qui était déjà assez âgé.
Farmer, assez âgé. Dans un film qui est censé se passer quelque part en Californie, sur la route du Mexique, dans un bled qui s'appelle Salina, qui est censé être sur le bord du Pacifique, alors que le film a été tourné aux Canaries, dans ces paysages lunaires, et qui contraste très fort avec le bleu de la Méditerranée, dans une ambiance un peu... Néo, Tennessee, Williams, avec des règlements de compte, une mère possessive, ouais. Un fils couvé, etc. Sur une musique de Christophe, ça donne un film complètement inattendu que je découvre un beau soir, vraiment à 3h du mat en rentrant d'une soirée arrosée, totalement... Et je tombe en arrêt devant ce film, ce qui donne lieu à mon premier poste d'étonnement, et donc qui vous donne un peu la ligne éditoriale, en tout cas, et du blog, ce qui par la suite ne nous a pas empêché d'écrire sur Brian De Palma, Dario Argento, Kirk Douglas, John Frankenheimer, etc.
Ouais, l'idée c'était vraiment de pas vous enfermer, de pas vous fermer de porte, et puis vraiment de parler de ce dont vous aimiez. Et j'imagine que pour toi ça devait être aussi, puisque tu disais, c'était aussi tes débuts dans l'écriture. Pour toi ça devait être un formidable terrain de jeu et d'expérimentation.
Absolument. Et puis moi, alors franchement, tout le monde ne vous dira peut-être pas la même chose, mais on écrit d'autant, enfin en tout cas j'écris d'autant mieux que j'aime ce sur quoi j'écris. Mmh. Et donc,
quand ça vient du cœur.
Passion, voilà, quand ça vient et du cœur, quand c'est argumenté, quand c'est
soutenu,
là,
ouais.
C'est un bonheur. Et c'est pour ça que que ce blog a pris énormément de place. Que effectivement, j'avais aussi comme modèle, en tout cas, effectivement, les fondateurs d'une revue comme Première et Studio, qui ont souvent été décriés, mais au
Jean-Pierre
moins...
Lavoignat notamment,
voilà,
et Marc Esposito.
Jean-Pierre Lavoignat et Marc Esposito, il faut leur rendre hommage et grâce d'avoir effectivement secoué le cocotier de la critique en allant écrire sur des sujets qui d'abord les passionnaient, sur des cinéastes qui les passionnaient, sur des coups de cœur. Et mine de rien, la critique coup de cœur, elle a cette vertu-là, c'est qu'elle permet de faire passer des choses et de transmettre le flambeau de la cinéphilie beaucoup plus facilement que de le faire dans un cadre académique ou universitaire.
Et c'est vrai que tu cites le cas de Jean-Pierre Lavoignat. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est aussi, il y avait cet écosystème où tu avais grosso modo deux piliers. Il y a des revues qui depuis ont disparu, mais deux piliers qui étaient Positifs et Les Cahiers, qui étaient pas particulièrement, qui avaient leur cinéaste un peu fétiche, mais qui n'étaient pas particulièrement connus pour faire dans la gentillesse. Et finalement, Lavoignat, c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché aussi, qu'il était trop gentil, qu'il était presque un peu complaisant avec certains cinéastes. Et finalement, c'est ce que tu dis, il y a des gens dont ils étaient les premiers à parler et à faire la promotion et à mettre en avant, même quelqu'un comme Spielberg à l'époque, ce qui n'avait rien d'évident, alors que par exemple des revues comme Positif, ils sont venus plus tard, on en avait déjà parlé. Positif par exemple, ils y sont venus avec Minority Report, notamment Michel Simon, et même des gens considérés comme moins talentueux, mais des gens comme Ron Howard aussi, qui étaient considérés un peu mineurs et qu'ils n'ont pas eu peur de mettre en avant. Et finalement, si tu prends le cas de Spielberg, c'est un très bon exemple. L'histoire leur a donné raison, puisque on voit que 40 ans après, il est toujours là, il a plein de choses à dire. Et son dernier film, on en a déjà parlé, est particulièrement passionnant, Spielberg.
Et le prouve, ouais, absolument. Et surtout, ils avaient ce parti pris, c'est que quand ils n'aimaient pas, ils n'en parlaient pas. Et moi, je préfère ça plutôt que
la méchanceté gratuite.
Et de débiner un film quand on sait tout ce qu'il faut en termes d'énergie, d'investissement. Pour faire un film, pour se retrouver démoli avec une bonne formule et qui peut faire rire, qui peut faire mouche, Mais c'est tellement cruel et c'est tellement dévastateur pour ceux qui y ont contribué que moi, c'est aussi ma ligne de conduite. Si je n'aime pas, je n'en parle pas.
Oui, et ce qui est justement, tu dis les choses que toi, tu n'aimes pas particulièrement, tu n'en parles pas. Et quelque chose qui était, alors peut-être volontaire ou involontaire de ta part aussi, c'était d'échapper un peu à ce qui, un certain, peut-être un esprit de clocher qui prime en France, c'est-à-dire que je parlais des cahiers du cinéma et de positif. Il y a un moment où ça paraît loin maintenant et ça peut faire rire, mais c'était vraiment des visions, j'allais dire, diamétralement opposé du cinéma et presque même du monde. Et à l'époque, on pouvait presque en venir aux mains et il y avait des gens qui étaient assez irréconciliables. Et toi, ton idée, c'était d'échapper un peu à ça et de pas forcément tomber dans les guéguerres de clochers.
Alors oui, absolument. Mais il faut quand même signaler que dans les années 80 et 90, ces deux revues ont fait aussi leur aggiornamento et c'est pour ça qu'elles existent aussi aujourd'hui, c'est qu'elles ont su
évoluer.
Se renouveler, ouais. Évoluer, faire entrer de nouveaux
élargir critiques. Leur canon peut-être.
Ouais. Exactement. Pensez au cahier du cinéma au tout début des années 80, ils font ces deux numéros mythiques sur Made in USA et dans lesquels ils vont à Hollywood, ils envoient Olivia Sayas, Nicolas Saada,
toute la jeune garde des
Michael Cimino, interviewer John Carpenter, Francis Ford Coppola pour rendre compte d'un état du bouillonnement du cinéma américain à cette époque et qu'il rebascule et qui va être enfin une ligne qui va être poursuivie par Serge Toubiana qui va de plus en plus ouvrir les cahiers du cinéma. Enfin, il faut se souvenir qu'en 86, ils font quand même leur couverture avec Tenue de soirée. Tenue de soirée de Bertrand Blier, c'était inimaginable, ne serait-ce que 2 ans plus tôt, sur les cahiers du cinéma. Je crois même qu'ils ont dû faire leur couverture à un moment sur ce film qui est maintenant dans les limbes, mais qui gagnerait très certainement à être revu, l'un des rares films sérieux de Claude Zidi, qui s'appelle « Deux », avec Gérard Depardieu et Marjuska Detmers, qui est une sorte de chronique néo-Marco-Ferreri d'un couple à la fin des années 90. Je me souviens avoir lu 5 pages d'interview de Claude Zidi dans les cahiers du cinéma. Donc, ils sont aussi considérablement ouverts. Du côté de positif, l'arrivée de jeunes critiques à l'époque, qui s'appelaient Laurent Vachaud, Philippe Rouillet... Yannick Dahan a fait énormément de bien à la revue, il les a complètement ouverts.
Aussi au cinéma de genre, par exemple.
Exactement.
Tu parlais de Yannick Dahan, notamment.
Aux cinéastes américains qui émergeaient à l'époque, les frères Cohen, les Tim Burton, etc. Et donc, ça a fait énormément de bien à ces revues-là, et qui montraient aussi qu'elles n'étaient pas engoncées dans leur parti pris et dans leur... catalogue. Donc oui, il y a eu vraiment un moment, en tout cas, de la critique et de l'ouverture dans les années 80-90, sous l'impulsion des studios premières, je pense qu'ils ont vraiment joué, parce qu'il faut y se souvenir, hein, la presse de cinéma à l'époque, le numéro de première qui a le plus gros tirage, c'est 450 000 exemplaires. C'est inimaginable aujourd'hui, un titre de presse de cinéma ne peut même pas rêver se créer un modèle économique autour de même 100 000 exemplaires. Ouais. C'est inimaginable.
J'avais déjà eu l'occasion d'en discuter avec Christophe Narbonne, qui était venu dans l'émission, qui avait été lui, qui avait été critique chez Première pendant 23 ans. Et c'est ce qu'il disait. C'était un peu l'âge d'or de la presse écrite tout court et de la presse écrite de cinéma. Et qui, c'est aujourd'hui, comme tu le dis, les chiffres se sont considérablement réduits.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Donc tu parlais de Ciné Bloggywood, c'est un projet auquel tu as contribué pendant quelques années et ensuite est venu le gros morceau, quelque chose qui t'occupe encore aujourd'hui, le projet Revue et Corrigée. Alors, tout d'abord, comment est né Revue et Corrigée? Le slogan de Revue et Corrigée, c'est film classique, regard moderne. Très belle phrase pour résumer ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est c'était la première à sa création revue de cinéma consacrée au cinéma de patrimoine. Donc, tout d'abord, comment est-ce que vous avez eu l'idée de... Comment est né le projet et d'où est venue cette idée de se consacrer au cinéma de patrimoine qui, tu auras l'occasion de le dire, a une définition, une acception très large
Alors, il est né de manière très, très opportuniste. Enfin, j'en dirais, il est presque né sur un coin de table. Mais simplement, nous, c'est-à-dire les co-fondateurs de Revue et Corrigé, on s'est vraiment pris au jeu. Il est né en 2017, très précisément au Festival de Cannes. C'est vraiment très, très précis. Il y a deux événements au
C'est un
Festival
beau lieu pour,
de Cannes.
c'est un beau lieu pour donner naissance à une revue de cinéma, quand même. C'est un
Exactement.
peu l'épicentre.
Il y a une table ronde. Une table ronde, le CNC organise beaucoup de tables rondes parce que
de rencontres.
Le Festival de Cannes, ce n'est pas seulement un festival de films, c'est aussi un marché qui fait.
D'ailleurs, oui, il me semble que c'est le plus gros marché du film du monde, j'allais dire, mais
absolument.
Et d'ailleurs, on pense souvent, tu parlais du glamour et des paillettes, on pense souvent à la montée des marches, mais la partie visible et massive, la partie invisible et massive de l'iceberg, c'est le marché du film,
marché.
Et c'est ça qui occupe les gens et les participants à longueur de journée.
Exactement.
Les deals qui se font.
Et donc, il y a énormément d'animations, de tables rondes destinées aux professionnels. Tout au long de la quinzaine du festival. Et donc, il y avait une table ronde sur, voilà, 2017, sur l'avenir de la critique du cinéma en France. Il y avait donc là, sur le plateau, les cahiers positifs, etc., etc., film, etc. Tous, bon, avaient leur opinion, mais il y a eu une sorte d'unanimité qui s'est faite auprès de tous, un consensus, et dire, en tout cas, il y a quelque chose qui manque en France. C'est une revue qui serait consacrée au cinéma de patrimoine. Mmh. Ça, c'est le temps. Donc là, on était avec Marc, Eugénie et Alexis. Marc Moquin, Eugénie Philo, Alexis Yomen, donc les trois autres comparses avec qui on a créé Revue et Corrigé. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas. Et quelque chose qui s'est manifesté dans un second temps. Donc, à Cannes, vous avez aussi des réceptions, des cocktails qui sont organisés par les éditeurs, les distributeurs, etc. Mmh. etc. Et Carlotta, cette année-là, faisait une rencontre spéciale avec Pierre Rissian à l'occasion de la sortie de la réédition de l'un de ses premiers films qui s'appelait « Cinq et la peau », à laquelle assistait donc Pierre Rissian. Et Pierre Rissian, c'est vraiment... C'est l'un des papes de la cinéphilie
en
France.
Tu parlais de passeurs, lui, c'est un des passeurs.
Un des passeurs les plus essentiels, qui a toujours travaillé plutôt dans l'ombre, qui a travaillé effectivement pour faire venir, sans lui, pas de Clint Eastwood en France, et la renommée de Clint Eastwood.
Ouais, ou une époque où lui non plus n'était pas beaucoup.
Il faisait partie des
MacMahon. Pas tellement considéré, oui.
Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours agi et dans l'ombre, mais de manière extrêmement active.
Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Je précise que pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient découvrir davantage le travail dans l'ombre de Pierre Rissian dont tu parlais, il y a un bouquin, il me semble que c'est de Jacques Mandelbaum, qui s'appelle Mister Everywhere, qui est de mémoire
pas de Jacques Mandelbaum, c'est de Samuel
Blumenfeld. Autant pour moi, je savais que c'était quelqu'un du monde. Voilà,
exactement, des mondes.
Il me semble que c'est un bouquin d'entretien, ou en tout cas qui
absolument.
Revient...
Et qui retrace toute sa carrière, comment, etc. Et c'est un bouquin passionnant, effectivement, que tout cinéphile qui se respecte doit avoir lu. Enfin,
Moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne me respecte
oh là
pas,
là
mais,
là
je
là
vais,
non,
mais
non,
je vais le lire. Non, tu vois, je savais que c'était quelqu'un du... un journaliste du Monde et justement ils ont mis en lumière le travail de Pierre Rissian.
Et on lui parlait de cette idée et il nous a dit mais banco, allez-y. Donc au retour donc du festival, tous les quatre, on s'attelle effectivement à la création de cette revue, au départ de manière un peu j'ai envie de dire un peu artisanale, mais en tout cas animée par la passion. Et parce qu'on n'est ni les uns ni les autres, ni issus du milieu du cinéma, ni du milieu de l'édition.
Oui, c'est-à-dire que, ou alors vous étiez tous à pratiquer ça de façon amateur comme toi avec
exactement,
le cinéma de
Hollywood. Exactement. Alors pourquoi une revue ? Mais parce qu'une revue, effectivement, le créneau n'était pris par aucun des titres qui existaient dans la presse cinéma, comme on l'avait vu à la table ronde. Deux, parce qu'on était tous passionnés par le cinéma de patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est que le cinéma de patrimoine ? C'est un terme, effectivement, qu'on utilise en France.
C'est un peu fourre-tout, finalement.
Qui est fourre-tout, qui renvoie aussi à d'autres notions, parce que quand on parle de patrimoine, on peut penser à architecture, on peut penser à quelque chose de poussiéreux.
Même on peut penser à, tu vois, on parlait tout à l'heure d'émissions qui datent un peu, tout ce qui est inclus sur l'INA qu'on peut trouver, on pense aussi à ça. Ouais.
Exactement. Et on n'a pas de terme, en fait, en France, qui désigne, qui film valorise...
Film de répertoire.
Voilà, il y a un film de... Mais ça fait déjà un peu universitaire.
Oui, c'est vrai. Il y a ce côté poussiéreux un peu aussi.
Il y a aussi les films classiques, mais les classiques, oui, là, c'est quand même... On parle des classiques de la littérature. Oui. Et sinon, il y a ce terme horrible que je récuse, mais on te le dit aussi pour les livres. Ce sont les vieux livres... ce sont les vieux films. Mm. On appelle les vieux films, mais...
Tu parlais le terme de classique, même, je veux dire, les classiques, Casablanca ou Citizen Kane, ce sont des classiques, mais dans les années 40, 50, toutes les décennies, il y a eu des mauvais films, donc il y a plein de vieux films, pour le dire comme ça, ou de films de répertoire qui ne sont pas devenus des classiques, et, parfois à juste titre aussi, donc le terme finalement ne correspond pas non plus. Quoi.
Exactement, et en France, on n'a pas de terme qui soit valorisant pour ce type de film, mais reste que ce qu'on appelle les classiques ou les films de patrimoine, ce sont des films qui ont soit plus de 10 ans, soit plus de 20 ans. Mmh. Donc, le champ est très, très vaste, très, très large. Et le constat de la création à la base de revues est corrigé. Donc, au-delà de l'anecdote du Festival de Cannes de 2017, il est le suivant, c'est que tous les mercredis, il y a une quinzaine, voire 20 films qui sortent. Sur la quinzaine et vingtaine de films qui sortent, il y en a 3 ou 4 qui sont des rééditions. Mmh. Quand vous rajoutez à ça le nombre de rééditions ou d'éditions vidéo qui existent avec le Blu-ray...
Oui, qui font parfois l'objet de restaurations en 4K ou des choses comme ça. Ouais.
Exactement, les restaurations. Vous rajoutez à ça les rétrospectives qui ont lieu soit dans les cinémas d'art et essai ou les cinémas spécialisés dans les films de patrimoine.
Oui, comme soit notamment dans le quartier latin, il y en a beaucoup.
Exactement,
des cinémas comme le Champeau, la Filmothèque, qui ne diffusent que des films de patrimoine.
Ou la cinémathèque. Vous avez un marché, c'est-à-dire vous avez des éditeurs, vous avez un public, vous avez tout un écosystème qui existe autour du film de patrimoine et quasiment aucune revue intégralement dédiée à ce marché-là, à ce segment-là, à cette niche-là, ne lui était consacrée. Et donc, on s'est lancé dans la création de revues et corrigées. Revues et corrigées pour revoir les films et corriger... le regard que l'on peut en avoir avec le temps ou utiliser de nouvelles lunettes pour mieux apprécier certains films qui ont pu être contestés en leur temps. Donc c'est comme ça qu'est née la revue. Économiquement, on a lancé une campagne de crowdfunding qui a largement dépassé toutes nos attentes et qui nous a permis de lancer un numéro, puis un deuxième, et puis avec... avec les abonnements, les ventes et tout, on a créé sur le temps 17 numéros revus et corrigés. C'est vraiment installé dans l'écosystème,
dans le paysage,
du cinéma, dans le paysage du cinéma, de patrimoine, à travers des partenariats, à travers des animations, à travers la création d'un ciné-club, d'un podcast et tous les acteurs de cet écosystème. Les Carlotta, les Gaumont Classique, les Malavida, etc., nous connaissent et reconnaissent la valeur de notre travail. Mmh.
Vous avez réussi à vous imposer comme référence, comme tu disais, sur ce créneau-là.
Exactement. Et en prenant quand même un parti pris éditorial assez fort, qui était de dire, on veut parler de films de patrimoine, donc il faut créer des revues et une revue qui reste. Donc, on a beaucoup travaillé la partie qualitative de la revue.
Un bel objet.
Son format. Donc, on s'est inspiré de MOOC. C'est vraiment un MOOC. Donc, on a beaucoup la mise en page, la qualité des écrits, la qualité du papier, etc. Et la deuxième chose, c'était effectivement pour montrer à quel point le cinéma de patrimoine avait quelque chose à nous dire sur notre présent, notre actualité. Sur la base d'une périodicité trimestrielle, notre but c'était de surfer sur l'actualité. Donc, exemple au moment de la présidentielle, on a fait un dossier spécial la manière dont les campagnes électorales étaient traitées au cinéma. par exemple. Donc on a essayé de surfer sur l'actualité sociale, politique du moment, ou l'actualité artistique et culturelle, au moment où il y a eu tout un mouvement sur l'art africain. On a sorti un numéro spécial cinéma africain et faire un point sur le cinéma africain et ses évolutions. Donc ça c'est vraiment et la pierre angulaire en tout cas moi de mon activité qui est de passer et de repasser le flambeau de la cinéphilie et notamment du cinéma en général aux nouvelles générations à travers une revue comme Revue et Corrigée.
Et alors justement j'allais te poser la question, est-ce que aujourd'hui c'est parce que c'est ce qu'on disait, les revues de cinéma la presse cinéma est moins imprimée, elle est moins lue, est-ce que sans aller jusqu'à parler de double punition, est-ce que c'est plus difficile même si le créneau de patrimoine est très large, puisque par exemple sur un des derniers numéros que vous aviez fait récemment, c'était sur Avatar. Techniquement, Avatar, c'est du cinéma de patrimoine puisqu'il est sorti en 2009. Donc, comme tu disais, ça a plus de 10 ans. Mais est-ce que, justement, de parler, même si le terme est disgracieux, de vieux films, de films classiques, est-ce que c'est aussi plus difficile parce qu'on s'adresse à un public qui est déjà un peu captif ? Est-ce qu'on a ce public, on a du mal à l'élargir, notamment au niveau des plus jeunes générations ?
Alors, ça a été notre pari et notre surprise, en fait. Notre pari initial, c'était effectivement de nous adresser d'abord aux jeunes et un public jeune. Le problème, c'est que le public jeune ne lit pas forcément de revues. Et là, créer une revue dans ce contexte, c'est compliqué. Il ne faut pas se mentir, hein, créer et faire durer une revue dans un contexte à la fois dans lequel le cinéma est moins au cœur de l'actualité comme il pouvait l'être dans les années 80-90, c'est compliqué. Et la deuxième chose, on a un moment aussi où les revues connaissent une désaffection de la part de leur public et de leurs lecteurs absolument phénoménal. Mais maintenant, imaginez un monde dans lequel il n'y aurait que Allociné pour pouvoir choisir un film chaque mercredi ou pour pouvoir se référer, pour pouvoir lire, en discuter, débattre. Moi, ça me convient pas. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous, qu'il y a beaucoup et d'auditeurs et d'auditrices actuellement qui aussi doivent. Imaginez-vous dans un monde sans revue.
J'imagine
ça,
tout à fait.
Ça paraît extrêmement complexe. Mais reste que la situation est compliquée économiquement. À quoi s'ajoute aussi le fait que le prix des matières premières.
Oui, ce que je veux dire, le prix du papier a été multiplié par quoi ? Par deux depuis un an ?
Nous, on a connu une hausse de près de 50% du prix du papier. À quoi il s'ajoute aussi tous les intermédiaires ? Parce que quand vous faites une revue, il faut aussi la distribuer.
Oui, ce que je veux dire, c'est le dernier kilomètre qui coûte le plus cher, comme le voladage. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez souffert aussi.
Exactement. Donc,
la logistique,
donc,
finalement.
Là, dans la
quelque chose de très terre à terre.
Exactement. Et donc là, on a un moment crucial de la revue, où en tout cas, on la met sur un mode pause, qui peut être un arrêt définitif. On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que là, on la met en pause et on va continuer à faire vivre. En tout cas, la marque Revue et Corrigée existe. Et tout l'enjeu, il est là. Ouais. C'est comment continuer à faire vivre la marque, comment continuer à faire vivre le cinéma de patrimoine à travers la marque Revue et Corrigée. Et donc là, on en est là aujourd'hui. Il y a aussi un autre aspect qui est assez particulier qui concerne les revues, enfin la presse culturelle en général,
oui,
et notamment la presse
dire,
de cinéma.
Le problème est plus vaste puisque c'est ce que tu disais finalement. Vous êtes particulièrement touché puisque vous êtes une structure indépendante. On y reviendra, mais les acteurs historiques du marché ne sont pas dans des situations beaucoup plus souhaitables.
Non, absolument. Ne sont pas dans les meilleurs. Enfin, ne sont pas dans la meilleure situation économique possible. Donc, c'est pour ce faire qu'un certain nombre, les pouvoirs publics ont été interpellés parce qu'il existe des aides. Il faut savoir qu'il existe des aides à la presse d'information.
Des subventions, oui.
Voilà, des subventions Il n'existe rien en faveur de la presse culturelle et encore moins en faveur de la presse de cinéma. Il existe une aide de la part du CNC, mais qui a le mérite d'exister, d'être là depuis maintenant une petite dizaine d'années, mais qui, par rapport à l'ampleur
c'est
de l'enjeu,
c'est une goutte d'eau dans l'océan.
Une goutte d'eau et mériterait d'être largement plus soutenu et largement plus amplifié, en tout cas pour pouvoir aider tous ces titres. Je ne parle pas seulement au nom de Revue et Corrigée, mais au nom même et de titres très très connus, hein, comme Les Cahiers du cinéma, Positif. On a signé un appel commun interpellant les pouvoirs publics à la fin de l'année dernière, en octobre dernier. On attend toujours la réponse des pouvoirs publics quant à leur capacité à pouvoir nous aider de façon à faire vivre et à pérenniser les titres de la presse de cinéma. Donc, en tout cas, moi, je vous invite toutes et tous, en tout cas, à nous aider. Et nous aider, ça passe par deux choses. D'une part, acheter la revue et acheter les revues en général. Et surtout, parlez-en autour de vous. Si vous l'appréciez, il est important que vous en parliez autour de vous. Parce que c'est vous qui êtes, c'est les lecteurs qui sont vraiment les premiers ambassadeurs de la revue, de Revue et Corrigée, comme des autres titres de la presse de cinéma.
Oui, parce qu'il y a quelque chose que tu disais qui est intéressant, c'est que tu disais la presse d'information bénéficie de subventions, puisque c'est quelque chose qui, je n'ai plus exactement la chronologie ou la généalogie en tête, mais c'est quelque chose qui avait été mis en place assez rapidement par les pouvoirs publics, puisque l'argument, c'est de dire c'est le prix à payer pour être bien informé, c'est-à-dire que des journaux de sensibilité, de couleur politique puissent se faire entendre et qu'on soit éclairé en tant que citoyen et qu'on puisse tous les jours faire nos choix en étant bien informé. Mais finalement, pour la presse culturelle, la presse de cinéma, c'est la même chose, puisque tu parlais c'est l'inverse d'une uniformisation, c'est-à-dire d'une multiplicité de supports et de revues, que tout cela puisse exister pour que, en tant que spectateur, on fasse notre choix dans les meilleures conditions, en étant bien informé, et que tous ces journaux-là, même si on n'est pas d'accord, puissent exister et se faire entendre leur voix.
Mais imaginez un monde dans lequel, actuellement, il y a 20 films qui sortent chaque mercredi. Comment est déjà faire son choix et la presse quotidienne, qui à un moment faisait son travail, ne peut plus le faire, ne peut plus couvrir toute l'actualité. Il ne reste que la presse spécialisée pour pouvoir et le faire. Et encore, quand des revues mensuelles recensent tous les films qui sont sortis le mois précédent et essayent de les chroniquer, mais elles n'y arrivent plus. Parce que déjà, un, il y a la moitié des films qui ne sont plus à l'affiche.
Bien sûr.
Et deux, parce qu'elles n'ont pas le temps matériel, humain, d'envoyer des critiques pour aller voir tous ces films qui sortent. Donc, c'est pour ça que ce qui existe doit être absolument préservé pour que nous, futurs spectateurs, nous puissions faire et nos choix et de manière éclairée, que ce soit à travers des titres de la presse quotidienne, mais surtout à travers des titres de la presse spécialisée.
Et justement, tu parlais de on parlait des différents titres qui existent encore. Si on prend un petit peu les différentes typologies, on voit que pour ces revues-là qui existent, elles sont soutenues par d'autres structures, notamment Sofilm, qui est apparenté au groupe Sopresse ainsi qu'à la maison d'édition Capricci. Positif, c'est pareil, de mémoire, il fonctionne en cheville avec la maison d'édition Actes Sud. Par exemple, Les Cahiers du cinéma, il y a quelques années de ça, l'affaire avait fait un petit peu de bruit. Ils avaient été repris par un groupe de personnalités du milieu des affaires selon la formule consacrée. Vous, c'est différent. Vous avez toujours voulu garder et maintenir votre indépendance. Et finalement, le prix de l'indépendance, est-ce qu'il se paye cher ?
Bah oui, oui. Enfin, et ça, bon, maints films l'ont déjà et raconté. Nous, c'est notre parti pris. C'est faire en sorte que c'est de rester indépendant. Alors là, actuellement, ça se fait au prix de notre développement futur. L'histoire n'est jamais complètement, définitivement écrite, mais reste que l'axe de l'indépendance, il est absolument primordial. Mais c'est ce qui a été le gage à la fois de nos difficultés au départ pour nous implanter, parce qu'il ne faut pas se le cacher, au départ, ça n'a pas été facile. Vous venez d'où ? D'où vous parlez ? Qui vous êtes ?
Ouais.
Mais au bout de 3-4 numéros, l'indépendance et donc notre volonté de continuer notre succès aussi économique et éditorial.
Vous avez fait gagner en légitimité.
Exactement.
Finalement.
Nous a permis de gagner en légitimité, nous a permis petit à petit de faire en sorte qu'un certain nombre de portes s'ouvrent beaucoup plus facilement qu'elles ne s'étaient ouvertes au tout début de notre aventure.
Et alors, tout ça est passionnant. On aurait pu en parler pendant des heures. J'aimerais bien que ce soit le cas. Il faudrait demander une dérogation à la radio. On arrive malheureusement, cela dit, bientôt au terme de l'interview. Je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, tous mes invités. On a déjà pas mal de parler de pas mal d'ouvrages, de pas mal de films. Mais est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre culturelle qui t'est particulièrement chère, que tu voudrais nous faire découvrir ou redécouvrir, puisque c'est parfois le cas quand on parle de patrimoine?
Alors oui, il y en a une, je vais le faire à double titre. C'est un film d'Arthur Penn qui s'appelle Georgia, Four Friends en anglais, son titre original. Pour trois raisons. Un, parce que grâce à toi, je me suis aperçu, je parlais du ciné-club, du premier ciné-club que j'ai animé. C'est le premier film que j'ai intégralement présenté de A à Z au ciné-club dans mon lycée. Donc, c'est un souvenir très fort. Deux, parce qu'il s'agit d'un film qui est devenu assez rare, en tout cas, qui est beaucoup moins connu qu'on ne le pense. C'est l'un des derniers films d'Arthur Penn. Alors Arthur Penn,
Little Big Man.
Voilà, Little Big Man, Bonnie and Clyde.
Bien sûr, Bonnie and Clyde est le plus connu. Voilà. Missouri Breaks.
Voilà, absolument, qui est l'un des grands cinéastes de ce qu'on appelle, de ce que Jean-Baptiste Torré appelle le Nouvel Hollywood, mais qui en tout cas est venu secouer le cocotier du Hollywood des années 60 en lui réinsufflant à travers le montage, la narration, un second souffle. Et donc, Georgia est un film un peu à part dans sa filmographie parce que c'est un film à la fois choral. C'est un film qui est une fresque sur l'histoire de l'Amérique des années 40 jusqu'au début de la guerre du Vietnam à travers le destin de quatre amis, d'un groupe de quatre amis, d'où le titre. Et c'est un film absolument à la fois qui porte toutes les vertus du cinéma de Penn, c'est-à-dire à la fois la manière dont il pointe la violence qui est fondatrice dans la société américaine, dans la vie politique américaine. C'est aussi un film qui est extrêmement à la fois et nostalgique, mais qui ne s'apesantit pas sur le passé. Au contraire, il est très ancré dans le présent.
Il ne l'idéalise pas non plus.
Et qu'il l'idéalise absolument pas. Et c'est un film qui est gorgé d'émotions. La figure du père est absolument centrale. Et vraiment, un des moments, il y a deux, trois moments très, très forts entre le personnage principal et son père. Et dernière chose, c'est aussi un film sur le melting pot américain, qui est aussi le grand sujet d'Arthur Penn. Dernière chose que je voudrais signaler à travers ce film, à travers cette fresque, c'est son scénariste, Steve Tezich, qui est le scénariste, entre autres, également du film de George Roy Hill, Le Monde selon Garp.
Adapté du bouquin de John Irving.
Absolument, et qui est un modèle de scénario et qui a une puissance autobiographique très très forte. Donc c'est vraiment un film, moi, de tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire à la fois c'est l'Amérique, c'est le côté choral, c'est le côté individuel, c'est le côté politique, donc la puissance du cinéma pour dénoncer, pour montrer, elle est très très forte, sans être didactique, et à travers donc un regard transverse et magique et très amoureux aussi sur l'Amérique.
Passionnant, on a hâte de voir ça. D'ailleurs, tu en parlais, est-ce que tu disais qu'il est assez peu connu, notamment par rapport à d'autres films d'Arthur Penn? Est-ce qu'il il a été édité, parce que tu parlais de Jean-Baptiste Torré, lui notamment dirige la collection Make My Day qui met... je confondais avec d'autres collections, qui met en lumière certains films de cette époque-là. Est-ce que dans le cadre de cette collection-là ou d'une autre, il a été édité, il est visible en France?
Il a été réédité en vidéo il y a maintenant 3-4 ans, il me semble, chez Rimini Édition. D'accord. dans une édition tout à fait correcte. Et il y a également l'avant-scène cinéma qui, à cette occasion-là, a publié son numéro consacré à Georgia, et dans lequel vous avez une analyse critique ainsi que tout un... tout le scénario du
mise
film,
en contexte
et... exactement okay. Une mise en contexte et je crois même vous avez même une interview de l'actrice principale que Antoine Cyr, l'un des monsieur cinéma de la BNP est allé retrouver à San Francisco et a interviewé à l'occasion de l'édition de ce numéro de l'avant-scène.
Donc passionnant.
Un numéro absolument passionnant et qu'il faut se procurer pour tout amateur de cinéma américain.
Merci beaucoup pour tout ça. Merci d'être venu dans l'émission, Sylvain, nous parler de plein de choses, de cinéma, de patrimoine et pas seulement. Et je ne peux que rejoindre et abonder dans ton sens. Aller au cinéma, c'est bien de rester chez soi, regarder des films. Ça, c'est important aussi d'en voir quel que soit le médium. Mais aller au cinéma, on voit les films dans des conditions qu'on ne voit jamais comme chez soi. Lisez les revues de cinéma, soutenez les revues de cinéma. On a besoin de cette indépendance-là, de ce recul-là, de cet œil-là. Donc, je ne peux que plus soyez, si ça existe, ce que tu disais. Merci beaucoup d'être venu de parler de ça dans l'émission.
Merci beaucoup, Robin, pour l'invitation et continuez le combat.
Bonne soirée.